Nous voulons ouvrir cette parole, la recevoir comme une parole vivante pour nous aujourd'hui. Et je vous invite à lire dans l'Évangile selon Jean. Nous avons lu le début de l'Évangile et nous allons lire un texte au dernier chapitre dans une sorte de conclusion tout à fait finale de l'Évangile. Jean 21, nous lisons à partir du verset 14. Jésus donc est apparu à ses disciples sur les bords d'un lac qu'ils connaissaient bien, la mer de Galilée. C'était la troisième fois que Jésus ressuscité se montrait à ses disciples, depuis qu'il était donc ressuscité des morts. Après qu'ils aient eu mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Puis Jésus lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu ? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même les reins, tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, un autre te ceindra, te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Jusqu'ici, notre lecture. J'ai choisi ce texte pour notre culte de baptême à cause de cette question que Jésus pose. M'aimes-tu ? Il y a là une question engageante, tout comme le baptême est un acte qui engage. Il y a, je crois, dans cette question, m'aimes-tu ? Une parole. Une parole qui doit en quelque sorte jaillir des pages de notre Bible pour devenir une question vivante, une question pour nous aujourd'hui. Parce que m'aimes-tu, c'est pas simplement la question que Jésus a posée à Pierre autrefois et là-bas. C'est une question qui est appelée à résonner pour nous aussi, ici même, dans cette salle, là où nous sommes ce matin. Une parole pour aujourd'hui, pas simplement une parole pour Pierre autrefois, mais une parole qui est appelée à résonner dans notre cœur à chacun, à nous qui sommes les témoins de ces baptêmes, à vous qui venez d'être baptisés, et à nous tous qui peut-être avons déjà été baptisés. Et j'espère aussi pour celles et ceux qui parmi nous sont en chemin par rapport à la foi. M'aimes-tu ? Dit le Seigneur Jésus. C'est avec cette question que se termine l'Évangile selon Jean. Cet évangile rend témoignage de ce que Jésus a été, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a accompli en venant dans le monde. Il nous invite, cet évangile, à croire véritablement que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et en croyant ceci, à recevoir la vie que Jésus veut nous donner. Il nous montre aussi cet évangile des hommes et des femmes qui ont cru, qui ont reçu cette vie en Jésus. Et voilà tout à la fin cette question qui est posée. Et qui, je crois, est appelé à devenir une question nouvelle pour nous chaque jour. M'aimes-tu ? Dit le Seigneur Jésus. C'est comme si cette question, on pourrait peut-être imaginer que nous l'écrivions sur notre miroir. Et chaque matin, alors que nous sommes allés en train de nous regarder, il y aurait cette question de Jésus. M'aimes-tu ? Veux-tu m'aimer pour aujourd'hui ? J'aimerais considérer donc sous plusieurs facettes cette question. Et d'abord, quel est son arrière-plan ? La question ne surgit pas dans le vide. Elle ne retentit pas du ciel comme ça, par surprise, sans préparation. Je l'ai dit, elle arrive à la fin de l'Évangile. Autrement dit, cette question où Jésus nous interroge « Est-ce que tu m'aimes ?» est précédée déjà de bien des choses. Et en particulier, elle est précédée de tout ce que Jésus a déjà manifesté, de tout ce que Jésus a déjà fait, de tout ce qu'il a déjà été. Et si on essaye de résumer la vie de Jésus par un verbe, quel est-il ce verbe ? Ce verbe, c'est celui de la question. C'est le verbe aimer. Comment résumer la vie de Jésus sinon en disant « il nous a aimés » ? La liste nous a rappelé ce verset qui rappelle les motifs de sa venue sur terre. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique. C'est la raison pour laquelle il est venu parmi nous. Et lorsque l'apôtre Jean résume l'ensemble de la vie de Jésus juste avant sa passion, il dit « avant la fête de la Pâque, et sachant que son heure était venue pour lui de passer du monde jusqu'au Père, Jésus qui avait aimé les siens qui étaient dans ce monde, les aima jusqu'au bout. » C'est comme ça que l'on résume la vie de Jésus. Jésus qui avait aimé les siens qui étaient dans ce monde, les aima jusqu'au bout. « M'aimes-tu ? » demande Jésus à ses disciples. Mais lui, le premier, a manifesté envers les siens un amour, et un amour dans la durée, et un amour dans l'intensité, et un amour qui est allé jusqu'au bout. Et certains comprennent cette expression « Dieu, il les aima jusqu'au bout » comme voulant dire « les aima jusqu'à l'extrême » ou « les aima jusqu'à l'accomplissement de l'amour ». Jésus nous a aimés jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême, jusqu'à l'accomplissement. Il nous a aimés jusqu'au don de sa vie. Il nous a aimés jusqu'à l'offrande de lui-même. Il nous a aimés jusqu'à l'oubli total de lui-même. Il nous a aimés jusqu'aux souffrances qu'il a endurées sur la croix à notre place. Il a aimé, il nous a aimés en buvant jusqu'à la lie, la coupe amère de la condamnation que méritait le péché de l'humanité. Jésus a poussé l'amour, la solidarité jusque-là. Il nous a aimés. Mais Jésus nous a aimés jusqu'au bout d'une autre façon encore. Et je crois qu'il faut souligner le fait que Jésus nous a aimés jusqu'au bout et jusqu'à l'accomplissement de l'amour dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'au travers de ce chemin de douleur, il est allé jusqu'au bout du triomphe de l'amour. Jusqu'au bout du triomphe de l'amour. Son amour a été vainqueur. Il a triomphé de la mort. Il a triomphé de la condamnation qu'il avait endossée. Pierre ici et ses compagnons, dans le texte que nous avons lu, retrouvent Jésus sur des rives qu'ils connaissaient déjà, sur les bords du lac de Galilée. Mais cette fois-ci, le Christ qui les rejoint est le Christ ressuscité. Et c'est en que Christ ressuscité, vainqueur de la mort, qu'il s'adresse à eux et qu'il les rencontre là. Ça fait une différence monumentale. Son amour a été jusqu'au bout du don de soi, oui, mais jusqu'au bout aussi de la victoire. De la victoire sur la mort, sur la condamnation. Et c'est riche de tout cela que Jésus pose la question « M'aimes-tu ?» Le premier, il a engagé son amour. Le premier, il a fait la preuve de son amour. Le premier, il a payé le prix de cet amour. Le premier, il a montré toutes les ressources, toutes les potentialités de cet amour, plus fort que la mort, plus aimant que la haine, plus généreux que l'indifférence endurée. Plus persévérant que tant d'offenses subies. M'aimes-tu ? Jésus qui demande cela a déjà prouvé son amour à lui. Ce qui veut dire que notre réponse peut être une réponse confiante, si nous répondons oui. Notre réponse peut être une réponse confiante, sereine, une réponse pleine de reconnaissance, car son amour s'est manifesté dans toute sa beauté, sa solidité, ses ressources. C'est ce que nous avons dit aussi par le baptême. Le baptême est un engagement à aimer le Seigneur, nous l'avons bien exprimé. Mais le baptême, avant cela, nous dit que Jésus-Christ est mort pour nous et que Jésus-Christ est ressuscité. Et c'est pour cela et pour cela seulement qu'une nouvelle vie est possible. Si Christ n'était pas mort, si Christ n'était pas ressuscité, on n'aurait pas besoin de se faire plonger pour ressortir d'un baptistère. Il n'y aurait rien à voir. C'est parce que Christ est mort qu'il est ressuscité, qu'il est possible aussi pour nous d'avoir le pardon et la vie nouvelle. Nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et il y a là quelque chose à ne jamais oublier, un fondement sur lequel il faut rester adossé fermement, une source à laquelle aussi il faut venir et revenir sans cesse pour s'abreuver. C'est comme une sève qui peut vraiment nous renouveler de l'intérieur. Cette question « m'aimes-tu » n'est pas lancée dans le vide, elle est portée par tout ce que Jésus a fait pour nous. Son amour, le premier, a été fort, réel, jusqu'au bout, il a fait ses preuves. Premier regard donc sur cette question. Deuxième regard, c'est à qui est-elle posée cette question ? À quel genre de personne est-elle posée cette question « m'aimes-tu » ? Celui auquel elle s'adresse ici, c'est un homme, Pierre, mais un homme après un échec terrible. Il avait aimé le Seigneur Jésus, il s'était cru fort dans son amour pour Jésus, et même plus fort que tous les autres. Peu avant l'arrestation de Jésus, Pierre avait proclamé « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne seras jamais pour moi. Même s'il me fallait mourir pour toi, je ne te renierai pas. » C'était sincère. Mais quelques heures plus tard, c'était la désillusion. Trois fois, Pierre a renié le Seigneur Jésus. L'échec, la honte, la tristesse d'avoir trahi. Lui qui avait tellement gonflé les biceps devant tout le monde n'a plus rien à faire valoir, désormais. Lui que Jésus avait surnommé Pierre, ce qui veut dire solide, quelque chose de costaud. Il n'est plus rien, et surtout pas une pierre, surtout pas un rocher. Et c'est avec cette terrible désillusion sur lui-même que Pierre apprend la mort de Jésus, puis sa mise au tombeau. Quand les femmes annoncent au matin de Pâques que le tombeau de Jésus est vide, Pierre sent quelque chose s'éveiller en lui, il ne peut pas rester en place. Il court au tombeau. Et quelques heures plus tard, les évangiles nous disent que le Christ ressuscité est apparu tout spécialement à Pierre. Une rencontre juste avec lui, certainement pour lui dire qu'il avait encore de la considération pour Pierre, pour son pauvre disciple. Et Pierre certainement a eu l'occasion là de dire à Jésus son regret, lui demander pardon. Mais ici, Jésus tient aussi à ce que les choses soient réglées publiquement, devant tous les autres. Et c'est pourquoi trois fois, il pose la question à Pierre, « M'aimes-tu ? » Jésus rappelle par cette triple question la triple trahison de Pierre. Mais en même temps, il le fait de manière très subtile et très belle parce que il donne à Pierre l'occasion de dire trois fois son amour. De dire trois fois que cette trahison ne représente pas ce qu'il veut être au fond de lui. Il lui donne l'occasion de dire encore, et malgré tout, son amour, son attachement. Que découvrons-nous ici ? Nous découvrons que la question « m'aimes-tu ? » est tout sauf une question pour un champion. Jésus n'est pas Julien Lepers. Lorsqu'il pose une question, s'il demande « m'aimes-tu ?», ce n'est pas parce qu'il nous a sélectionnés comme étant particulièrement performants. La question « m'aimes-tu ?» s'adresse ici à quelqu'un qui n'a aucune performance à faire valoir. Jésus ici donne une chance d'aimer, donne une chance de se relever, même quand on a démérité et qu'on n'a plus rien à apporter, à présenter. Et vous l'aurez remarqué, lorsque Jésus appelle Pierre ici, il l'appelle par son nom le plus commun. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? Il ne l'appelle pas par le surnom qu'il lui a donné, Pierre, rocher. Non, non. Un jour, Pierre sera ce rocher que Jésus attend de lui. C'est l'objectif que Jésus a pour lui. Mais pour le moment, ce n'est pas comme cela que Jésus l'appelle. Simon, fils de Jonas. Jésus le prend là où il est. Et en le prenant là où il est, il lui demande une vraie sincérité. Il lui demande un amour qui s'exprime aussi en vérité, avec ce que l'on peut dire, avec la tristesse aussi de ne pas avoir plus à apporter en sincérité. Cette vérité devant Dieu, devant le Seigneur, passe par la reconnaissance de nos fautes, de nos lacunes. Mais en même temps, elle n'enferme pas dans ses fautes et ses lacunes. Et c'est pourquoi la question est posée comme une possibilité de revenir, de se relever, de croire et de dire encore « je veux t'aimer, même si je n'ai rien à faire valoir. » Et le baptême, lui aussi, est une manière de dire « tu sais toute chose, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Mais le baptême n'est jamais un baptême pour un champion. Jamais. Et Léa nous l'a bien dit. Et mon baptême, c'était pareil. Hein. Personne n'est baptisé parce qu'il est un champion, dans la foi. La seule raison qui nous permet d'être baptisés, c'est l'amour du Christ pour nous malgré nos insuffisances. C'est l'amour du Christ malgré nos échecs. C'est l'amour du Christ malgré notre péché. Nous lui disons « Je t'aime, je veux t'aimer ». Mais ce n'est pas notre amour qui a fait ses preuves pour que nous puissions être baptisés. C'est au contraire parce que son amour à lui a fait ses preuves envers nous que nous pouvons nous engager à notre tour. Nous nous savons aimer de lui, nous attendons tout de lui, c'est notre seule base. Et pour vous, pour chacune d'entre vous qui vous êtes fait baptiser ce matin, c'est votre seule base, comme à nous tous. Sur cette base, il s'agira de grandir dans l'amour, de s'affermir dans la foi. Et sur ce chemin où on grandit, où on s'affermit, il y aura des jours aussi où vous allez vous retrouver, où nous nous retrouvons les uns les autres, comme Pierre s'est retrouvé ce jour-là. Non pas Pierre le rocher, mais Pierre juste fils de Jonas. Pierre qui est tombé, qui s'est planté plus ou moins, qui sent un peu lamentablement ses limites. Mais lorsque nous en sommes là, si nous voulons continuer à marcher, et nous le pouvons grâce à l'amour, à la grâce qui nous est donnée en Jésus-Christ, il nous faut nous apprendre à nous relever, à reprendre la marche, à reconnaître nos fautes, mais à croire en l'amour du Christ qui est encore plus fort et qui nous dit « M'aimes-tu ?» dans le sens de dire « Tu veux continuer avec moi ? Moi, je suis prêt à continuer la marche avec toi. » Et c'est alors que l'on peut oser encore cette parole sincère. « Oui, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Dernier regard sur la question. Quel état d'esprit est-ce que cette question peut développer en nous? Aimer, c'est un lien de personne à personne. Et lorsque Jésus demande « M'aimes-tu ?» et lorsque c'est cela une des questions finales de l'Évangile, cela nous dit que ce lien personnel est ce qui compte pour le Christ avant toute autre chose. Du coup, la foi en Jésus n'est pas d'abord une affaire de performance. Ce n'est pas d'abord une affaire de réalisation qu'il faut accomplir. Mais la foi en Jésus-Christ, c'est d'abord une question de relation. Aimer, c'est mettre la relation au centre. Pourquoi aime-t-on quelqu'un? Parce que c'est toi, parce que c'est moi. Il n'y a rien d'autre à dire que ça. Parce que c'est toi, parce que c'est moi. L'amour met ce « tu », ce « toi » au centre. Et parce que ce « tu », ce « toi » est au centre, il suffit alors d'un geste, d'un échange, d'une connivence, d'un petit geste de reconnaissance pour que l'on soit comblé, parce que ça éveille ce qui est là déjà au centre. Et on sait, quand on aime, une attention, même infime, peut toucher, peut faire chavirer le cœur. Pourquoi ? À cause de l'importance de cette attention ? Non. Ce qui fait chavirer, c'est que cette attention, elle rappelle que c'est toi, que c'est la relation qui est au cœur des choses. Un regard peut tout dire entre deux personnes qui s'aiment, parce que c'est la relation entre toi et moi qui compte. Et c'est pour ça, juste le regard suffit à évoquer tout cela. Parce que l'amour dit « tu comptes pour moi ». L'amour touche et l'amour est touché par mille gestes, petits et grands. Et parce que ces gestes alors sont chargés de toute une signification, ils sont comme enrichis, transfigurés. Offrir une fleur, faire une caresse, en soi c'est si peu de choses. Mais quand cela exprime l'amour, quand c'est une façon de dire à quelqu'un « tu es unique pour moi », tu comptes de manière totalement spéciale, alors cela prend une signification, une résonance magnifique. Et voyez, mettre la question « m'aimes-tu ?» au centre de notre foi, c'est mettre au centre de notre foi cette relation entre Dieu et nous. C'est chercher à dire à Dieu, par nos actes, par nos pensées, qu'il compte d'une manière unique pour nous. Qu'il compte de manière unique pour nous. C'est nous recentrer sur ce qu'il est pour nous, sur ce que nous pouvons être pour lui. C'est cela, la vision de la foi qui nous est laissée par cette question. J'ai parlé tout à l'heure du miroir où nous nous regardons chaque matin. Moi, j'aimerais peut-être nous inviter, au travers de cette question « M'aimes-tu ?», à nous dire, mais chaque matin, pourquoi ne pas commencer notre journée, peut-être devant le miroir ou ailleurs, je ne sais pas, en lui disant « Bonjour Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime et que je veux faire aujourd'hui, manifester mon amour pour toi, aujourd'hui, maintenant, dans cette journée que tu me donnes, par mes actes, par mes pensées. » Et c'est une belle manière de mettre Jésus, de mettre le Seigneur au centre de notre vie. Chaque matin, un petit mot comme cela, pour qu'il soit remis au centre et qu'il ne soit pas juste une espèce d'à côté occasionnel vers lequel on vient, comme ça, si on a besoin, quand on a fait tout le reste. Je me suis procuré il y a quelques jours un petit livre qui s'appelle « Prière du soir et du matin ». Et le sous-titre de ce petit livre, c'est « Parler à Dieu comme à son meilleur ami ». C'est un théologien anglais qui a écrit cet ouvrage, c'est un homme assez costaud, qui s'appelle William Barclay. Et ce théologien a choisi d'écrire des prières pour aider les jeunes à venir devant Dieu chaque jour. Et pour aider les jeunes à mettre et à remettre l'amour pour Dieu au cœur de leur vie quotidienne. Et c'est pour ça qu'il y a des prières pour le matin, pour le soir. Des belles prières simples et concrètes. Prière du soir pour faire un point, pour dire merci pour la journée. Prière du matin pour se présenter vraiment devant Dieu. Et l'orientation de ces prières, c'est pas juste, si vous voulez, de venir le matin avec un petit mot en disant « Seigneur, bénis-moi !» Mais l'orientation, c'est plutôt de dire « Seigneur, je te présente ma journée avant de la commencer. Je veux la vivre avec toi, je veux la vivre pour toi. Et dans tout ce que je fais, j'aimerais te rencontrer. » Alors je vais vous lire une de ces prières. Ça parlera d'elle-même, c'est une des prières du matin. Et ça illustre, me semble-t-il, ce que j'aimerais vous dire par cette manière de mettre la relation simplement au centre et de mettre au centre de notre vie chaque matin cette question « M'aimes-tu ?» Voilà la prière. « Seigneur, je compte sur ton aide pour que j'utilise chaque heure de ce jour selon ta volonté. Empêche-moi de perdre mon temps et donne-moi de savoir à tout moment ce que je dois faire. Et le sachant, aide-moi à le faire. Que je ne rate pas une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau, de montrer mon amour à ceux qui m'aiment, d'aider quelqu'un dans la difficulté, de devenir un peu meilleur, un peu plus sage que ce que je ne suis. Empêche-moi de me quereller aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, aide-moi à garder mon calme. Ne me laisse pas perdre courage et que je ne déçoive pas ceux qui m'aiment. Tout au long de la journée, fais que je ne t'oublie pas, Seigneur Jésus, de sorte que mes actes et mes paroles rencontrent ton approbation. Merci de partager toutes mes joies et toutes mes peines. Je te prie pour l'amour de ton nom. Amen. Qu'est-ce qui est au centre ici? Qu'est-ce qui est au centre ici? C'est la relation. Ce qui est au centre ici, c'est le désir de vivre chaque journée sous le regard du Seigneur, dans la reconnaissance envers lui et avec son aide. C'est une prière qui décentre de soi. Cette prière, ce n'est pas « Bénis-moi, et moi, et encore moi ». Ce n'est pas cela. Cette prière est centrée sur toi, sur le toi que je dis au Seigneur. Et elle invite concrètement le Seigneur à prendre sa place dans ce que je vais vivre pour la journée qui s'ouvre. On se demande parfois, mais comment le Seigneur peut-il être vraiment présent dans notre vie? On ne le voit pas, on ne ressent pas toujours des états d'âme magnifiques. Il n'y a pas non plus tous les jours le bouleversement du cours des choses par un miracle du Seigneur. Dieu se donne dans l'amour. Dieu se donne dans l'amour. C'est lorsque je m'ouvre à lui, que je mets la relation avec lui au centre, que je l'intègre dans ma vie quotidienne comme mon meilleur ami. C'est là qu'il répond présent. Et la différence alors, on la sait parce qu'on la vit. Et c'est pour ça que cette question « M'aimes-tu ?» est tellement importante. Elle compte comme une grande décision d'orientation en un jour comme le baptême. Et c'est important de confesser publiquement que nous aimons le Seigneur Jésus. Mais il y a une suite ensuite. Et cette suite, c'est chaque jour. Parler à Dieu comme à son meilleur ami. Vivre avec Dieu comme avec le meilleur ami. Chercher dans sa parole à découvrir ce qu'il est, ce qu'il aime, comme on le fait pour son meilleur ami. Nous mettre à son écoute en lisant sa parole comme on aime écouter un ami. Chercher à lui faire plaisir comme on aime le faire pour son meilleur ami. Pour Pierre, en tout cas, cette question de Jésus, « M'aimes-tu ?» a été la bouée de sauvetage de sa vie. Il l'a reçue non comme un ordre, mais comme une invitation, comme une chance magnifique qui lui était donnée. Et cette chance, il l'a saisie humblement, il n'avait pas rien à faire valoir, mais il l'a saisie résolument. Et c'est ce qui a permis à ce Simon, fils de Jonas, de devenir un jour vraiment ce que Jésus voulait pour lui. Il est devenu Pierre, un rocher, quelqu'un de solide. Et c'est ma prière pour nous tous aussi. Là où nous en sommes, que nous venions sincèrement devant le Seigneur. Que jour après jour, nous vivions dans cet amour pour le Seigneur, en mettant la relation au centre, simplement. Et que ainsi, nous puissions grandir, nous affermir. Je termine par une parole de l'apôtre Paul. Une prière pour ses frères et sœurs. C'est la prière que j'ai reçue le jour où j'ai été baptisé. Que votre amour, dit l'apôtre Paul, augmente de plus en plus, en connaissance et en vraie sensibilité. Qu'ainsi vous sachiez discerner ce qui est important, afin d'être sincère, irréprochable pour le jour de Jésus-Christ, et que vous soyez remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ et qui est à la gloire et à la louange de Dieu. M'aimes-tu ? L'invitation nous est lancée par le Christ qui nous a aimés le premier, qui nous prend là où nous sommes, qui veut nous conduire plus loin. Comment répondrons-nous à cette invitation ? Comment répondrons-nous à cette invitation ? La réponse, c'est à chacun de nous de la donner, aujourd'hui, demain, chaque matin.